cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade.
Par ailleurs, paye fièrement pour les plus riches. Sans exception, tout le monde cotisera pour les plus hauts revenus. Mais je ne veux pas des retraités. Pour renvoyer la patate chaude, si vous me permettez cette trivialité, je ne vois pas l'intérêt des retraités. Je ne veux pas payer la totalité de la retraite de nos parents. Pardon, ne comptez pas sur moi. Le gouvernement ira même plus loin. La mise en place d'un système universel implique la suppression des retraités, sans attendre. Enfin, je veux que les élus bénéficient de privilèges. Dernière chose, nous ne réussirons pas cette réforme. Nous maintiendrons l'âge minimal de départ à la retraite à moins de 17 ans avant 20 ans. Nous construisons donc un système de retraite absurde. Si vous voulez mon sentiment, c'est très bien ainsi. Je vous remercie.
La voix
off. Et une polémique.
C'est un montage.
C'est la liberté d'expression, mais c'est pas l'anarchie.
Macron, Macron, la division des générations et des professions est une opération, une manipulation que nous refusons.
Salut André.
Bonjour à tous.
Retour de manif au moment où on enregistre, on est le jeudi 9 janvier. Une mobilisation qui ne faiblit pas.
Bon, il y avait un petit peu moins de manifestants que le 5 décembre, mais cependant, je pense qu'il y a une recrudescence de la revendication, parce que j'y ai vu une quantité de visages, une quantité de gens qui ne viennent jamais aux manifestations. La contestation est en train de mordre sur un très grand nombre de gens de l'opinion qui prennent conscience que l'enjeu est capital, considérable, quoi. Et donc, je suis relativement confiant, au moins dans le mouvement et dans ses suites éventuelles. Alors, bien sûr, il y a en face de nous un pouvoir qui est un pouvoir violent, intransigeant, dictatorial en quelque sorte, et qui a pris le parti dès le départ de la confrontation, la guerre quoi. Ils ont déclaré la guerre au mouvement social, ils lâchent rien, ils veulent que le mouvement social s'épuise, s'effondre, que les gens rentrent chez eux, la queue entre les jambes, etc., et qu'il ne se passe rien, etc. Mais ça semble quand même assez difficile parce que il est rentré quand même dans la danse une quantité de gens qu'on avait rarement vus. Moi, j'ai vu défiler toute une troupe d'avocats en robe. C'était quand même assez impressionnant. Et j'ai entendu à la télévision le secrétaire général de la CGC, Confédération Générale des Cadres, un syndicat, vous me l'accorderez, extrêmement calme, prompt à l'arrangement avec les pouvoirs successifs. Et là, cette fois-ci, c'est le niet est catégorique. Hein. Ces gens sont contre le projet qui leur a été soumis, parce qu'ils ont fait leur compte. Hein. Bien sûr, le pouvoir méprisant peut renvoyer la CGT en disant que c'est des prolétaires incultes et illettrés. Là, la CGC, ce sont des cadres supérieurs, souvent. Ces gens savent compter, et le compte n'y est pas. Ils savent, et ils disent délibérément, ce projet de retraite va nous faire perdre beaucoup d'argent à tout le monde. C'est fait pour ça. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est cette dénonciation de la façon dont le pouvoir a procédé pour faire passer ce texte extrêmement important sur un sujet énorme de société qui est celui de la retraite. Pour ce sujet aussi important, il n'y a eu aucune vraie consultation parlementaire ou autre, sociale. Le projet était déjà ficelé, il a été proposé comme ça. Et on a dit, on va se revoir, alors même que personne ne connaissait les chiffres, il n'a pas été chiffré. En fait, il y a une obligation pour des projets comme ça de chiffrer, de faire un chiffrage par la Cour des comptes, par des organismes spécialisés. On chiffre combien va coûter le projet. Là, ça n'a pas été fait. Donc on a proposé un projet non chiffré. Il n'y a pas eu de discussion. On leur a dit, ça prend ou à laisser, en quelque sorte. C'est une dictature. Et ensuite, après, lorsque le mouvement social montre les dents, là, on envoie les flics et on fait la guerre sociale, quoi. C'est un gouvernement de guerre civile que nous avons actuellement. Il faudra s'en méfier, d'ailleurs, hein, parce qu'à la moindre provocation, ces gens sont capables d'envoyer les mitrailleuses. Hein, ce sont des salopards, intégralement. En tout cas, j'étais très content de la journée de mobilisation aujourd'hui, parce que j'y ai vu une quantité de jeunes, une quantité de femmes, une quantité de travailleurs de toutes sortes, de tous âges, de tous horizons, etc. Il y a une prise de conscience, il se passe quelque chose.
Nous n'avons pas le choix, les libertés sont menacées, le ministre voilà, voudrait les détourner. Entrer dans la danse, grève partout en France, public plumé, c'est beaucoup trop d'annuité. Nous n'irons plus en classe, les écoles sont fermées, car devant la menace, nous sommes mobilisés. Entrer dans la danse, grève partout en France, public privé, c'est beaucoup trop d'annuité. La réforme que voilà, nous ne laisserons pas passer. Nous défendrons nos droits jusqu'au retrait complet. Entrer dans la danse, grève partout en France, public, privé, c'est beaucoup trop d'annuité.
Comme toi, j'ai vu des gens dans ces dernières manifestations qu'on ne voyait pas avant manifester. À signaler quand même que les cheminots, là, sont à plus de 30 jours de grève et c'est eux le fer de lance du mouvement social. De ce que j'ai cru comprendre, les étudiants attendent de finir leur partiel. Les lycéens vont bientôt rentrer dans le bac, à moins qu'ils n'y soient déjà. Pour le moment, c'est les cheminots quand même qui portent tout, là. Les cheminots, ils n'ont pas des forces inépuisables. Il va falloir que d'autres les rejoignent.
C'est vrai ce que tu dis, un mois de grève. Aujourd'hui, les gens portent des salaires considérables. Faut tenir avec un, même avec une caisse de grève un mois, parce qu'on nous a fait pleurer sur les gens qui attendaient sur les quais de la gare, hein, ou sur les pauvres commerçants ruminés par le mouvement social. Ça me rappelle d'ailleurs la grande grève des mineurs de 1963. En 1963, les mineurs du Nord ont entamé une grève tout à fait considérable contre le gouvernement gaulliste de l'époque, etc., pour les salaires, pour les conditions de travail, etc. Cette grève a été soutenue, massivement soutenue par les gens en France, l'opinion. Moi, je me souviens qu'à la maison, il y avait une gamine de famille de mineurs qui est restée 3 semaines à la maison. Il y a eu une véritable solidarité sous toutes ses formes par le reste de la classe ouvrière. Alors aujourd'hui, il y a une solidarité, mais elle n'est pas suffisante pour faire tenir un mouvement 2 mois, 3 mois comme ça. Il y a un moment donné, il va falloir reprendre le travail. Dans quelles conditions ? Ce qui serait idéal, c'est qu'il y ait un relais qui est pris par exemple par les ouvriers de la chimie et du raffinage, qui pourraient eux aussi contrarier tout à fait le gouvernement, parce qu'ils peuvent arrêter l'approvisionnement en carburant du pays. Hein. Ça s'est vu, hein. Il n'y a pas énormément de réserves. Quand il y a un danger comme ça de pénurie, les gens se précipitent à la pompe. Ça accentue l'effet de pénurie, ou ça anticipe sur l'effet de pénurie. Donc il faudrait que le relais soit pris par d'autres catégories de travailleurs. Parce qu'en fait, tout le monde est concerné par une chose comme ça, quoi. On ne peut pas laisser faire un truc comme ça et attendre les prochaines élections pour remodifier la loi, etc. Enfin, c'est insupportable, quoi. Il faut donc impérativement contraindre le gouvernement à retirer ça. Comment ? Il faudrait que le mouvement étudiant, il faudrait que le mouvement des jeunes, en quelque sorte, appuie. Hein. Il y a quand même un jeune qui s'est suicidé, là, il y a quelques mois. Eux sont concernés, c'est eux qui sont concernés, hein, en premier. Hein. C'est des gens qui auront un métier dans 2, 3 ou 4 ans. Et si la loi passe, des gens qui vont commencer à avoir un salaire régulier à 26 ans, on va leur demander de travailler 40 ans. 26 et 40, ça fait 66. Donc si tu sais, les gens leur disent, bah oui, bah, c'est fini, c'est la retraite à 60 ans. C'était dans le temps, ça, c'était pour les privilégiés. Non, vous, ça serait 66 ou 67, toi. 67 ans, travailler jusqu'à 67 ans, non mais attends, mais surtout que bon, les gens n'ont pas tous des boulots de gras de papier. Non, ça s'est terminé. Aujourd'hui, même les gens qui sont dans les administrations sont derrière un ordinateur et ils ont des rythmes de travail épuisants. Pour peu que dans quelques années, on s'attaque à la sécurité sociale et aux arrêts maladie, des trucs comme ça, tu vois un petit peu jusqu'où on va dans la régression, quoi.
Je pense pas que le gouvernement Macron ait l'intention d'attendre quelques années pour attaquer la sécu, hein. C'est dans les tuyaux, hein.
Si ces salopards gagnent avec les retraites, dans le collimateur, c'est la sécu qui est visée. Il s'agit de liquider, c'est une bonne fois pour toutes, ces odieuses lois sociales qui ont été faites après la guerre. Il s'agit de s'aligner sur le moins-disant social en Europe, quoi. Vous voyez, les Schleux ou les Polacs, ils sont formidables, ces gens-là, ils sont sensationnels, ils n'ont pas de loi sociale. En Lettonie ou en...
60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. Il n'y a qu'à voir comment on nous traite, on en a ras la casquette. Oh, 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 la retraite, c'est beau. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. Il faut que l'on puisse partir bien avant de se voir mourir. Oh, 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 la retraite, c'est beau. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. Il n'y a qu'à voir comment on nous traite, on en aura la casquette. Oh, 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 la retraite, c'est beau. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. Il faut que l'on puisse partir bien avant de se voir mourir. Oh, 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 la retraite, c'est beau. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. Il n'y a qu'à voir comment on nous traite, on en aura la casquette. Oh, 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 la retraite, c'est beau. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. 60 ans pour la retraite, ce n'est pas trop tôt. Il faut que l'on puisse partir bien avant de se voir mourir. Oh, 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 la retraite, c'est beau.
Alors André, la propagande qui commencent dès les bancs du collège, te disent « Oui, mais vous comprenez, il y aura trop de vieux, pas assez d'actifs, donc on peut pas, donc la retraite c'est plus possible, l'âge pivot, tout ça. » Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots pourquoi tout ça, c'est des conneries? Outre le fait d'abord que la France est un pays immensément riche, hein, on est quand même 7e puissance économique du monde, 2000 milliards de PIB par an, comparé à 1945, où la France était un champ de ruines, où il n'y avait plus un franc dans les caisses, et pourtant, c'est en 45 qu'on crée la sécu, et que les ministres communistes Ambroise Croizat, Marcel Paul et compagnie créent la sécurité sociale. Là, aujourd'hui, on est immensément riche.
Oui, bien sûr. L'argumentation du pouvoir, qui n'est pas neuve, hein, sur la démographie, en disant, vous voyez, les livres de géographie d'il y a 20 ou 30 ans, on disait déjà aux élèves, vous voyez, il y a beaucoup plus de gens qui vont à la retraite que de gens qui travaillent, donc vous n'aurez pas de retraite ou vous aurez une retraite diminuée, etc. C'est faux. C'est archi faux. Les chiffres ne disent pas du tout cela, quoi. C'est une façon d'utiliser la démographie. C'est comme Churchill qui disait « Je n'aime pas les statistiques, sauf celles que je fais moi-même. » Alors, pour l'âge pivot dont on parle, il vaudrait mieux dire d'ailleurs âge référence que âge pivot, parce que un pivot, c'est quelque chose autour duquel quelque chose tourne, hein, comme un axe. Là, il n'y a rien qui tourne autour. C'est plutôt un âge référence. Hein. On sait que la gauche au pouvoir a établi la retraite à 60 ans. Alors qu'avant, c'était plutôt 65 ans, l'âge de référence de la retraite, etc. Mais il y a une différence entre l'âge à laquelle les gens vont en retraite et l'âge référence de la retraite. Parce que dans le temps, avant 1994, il fallait 37,5 annuités de cotisation pour avoir le droit à sa retraite à taux plein. Tant qu'elle était à 65 ans, ça obligeait quand même les gens de travailler au-delà de ce qu'ils auraient pu travailler. Donc ça a été quand même une chose intéressante de dire non, on peut travailler maintenant à 60 ans, si vous avez vos 37,5 annuités. Alors c'était insupportable au patronat, ça, et donc il a fait toute une série de réformes, d'abord dans le privé, c'était sous Chirac. Il a dit à partir de dorénavant et de dès à présent inclus, ce n'est plus 37,5 annuités, mais 40 ou 41, etc., jusqu'à 42 annuités de versement pour avoir le droit à la retraite complète. Dans le privé, et à cette époque-là, ça n'a pas trop râlé parce qu'il y avait des gens qui ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans, etc., et qu'ils avaient largement leurs 40 ans d'annuités. Pour les fonctionnaires, c'est passé plus tard, c'est passé avec Fillon en 2003. On a dit aux fonctionnaires, ben non, c'est plus 37,5 annuités de versement, du moins, vous devez avoir 40 jusqu'à 42 ans, etc. Et ça a reporté la retraite à 62 ans, 61, 62 ans, même plus pour certains autres. Aujourd'hui, contexte de cette réforme, de ce projet de réforme de la retraite par Macron, que signifie cet âge pivot, cet âge référence, etc. Ben, comme la retraite la réforme est faite aujourd'hui pour que les gens travaillent jusqu'à 65, 66 ans pour avoir le droit d'avoir leur retraite à taux plein. Si on maintient une année de référence de 62 ans, ça la fout mal. En fait, c'est très symbolique. Berger se contenterait de laisser un âge pivot à 62 ans, même si dans la réalité, va contraindre les gens à travailler jusqu'à 64, 65 ans et plus. Berger veut bien trahir, mais il ne faut pas que ça se voit. En gros, c'est ça l'histoire de l'âge pivot. Parce que, en fait, admettons qu'on n'y touche pas. Alors, Berger, vous avez vu, ils ont cédé. Ah, c'est formidable. Donc, je quitte le mouvement, je trahis. Bon. Que se passerait-il si aujourd'hui Macron, Philippe disent bon, allez, on laisse tomber l'histoire de l'âge pivot, c'est toujours la retraite à 62 ans, l'âge légal où on peut partir à la retraite. Ça changera quoi? Mais rien du tout, puisque de toute façon, les dispositions telles qu'elles sont prises aujourd'hui par la retraite à points fera que les gens n'auront pas le total des points à 62 ans. Ils ne l'auront pas. Et donc, ils seront obligés de continuer à cotiser et à travailler. Et encore, il faudrait préciser que non seulement ils ne pourront pas partir à 62 ans, mais que quand ils partiront à 64 ou 65 ans, voire plus, leur retraite sera minable. Parce que le mode de calcul, parce que c'est ça qui compte, c'est qui cotise, quels sont les revenus, les ressources. Et ensuite après, quel est le mode de calcul, des trucs comme ça. Ils disent pas aux gens, on va vous baiser la gueule, mais alors en grand. Hein, parce que ce dont il est question dans cette réforme, c'est que les patrons payent pas leurs cotises. C'est ça le fond de l'affaire, faut pas aller chercher plus loin. Et parce que quand on dit, ah mais quelles ressources, ah puis il va y avoir un déficit, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de cotisation patronale pour la protection sociale. Et pourtant c'est ça le fond de l'affaire, le patronat attend tranquillement qu'on lui retire un système qui lui pèse lourd. Alors il veut bien payer sur la marge un petit peu, le moins possible. Parce qu'en fait c'est un salaire différé la retraite. Que paye le patronat lorsqu'il verse dans les caisses. Bien sûr, l'employé verse aussi dans ses caisses, mais une autre partie de la cotisation, c'est la cotisation patronale. Et c'est pas rien. Et c'est elle qui constitue les caisses de retraite. C'est les charges sociales. Alors on oublie de dire que les petits patrons payent beaucoup plus que les grands patrons. Même là-dedans, parmi le patronat, il y a de l'inégalité. On a un système pourri, mais jusqu'à la moelle. Tu prends un petit patron d'une entreprise de restauration ou de travaux publics ou de trucs comme ça, de plomberie, trucs comme ça, il paye un pourcentage de charges sociales supérieur à Carlos Ghosn et à Renault, PSA. Donc pour l'essentiel, si on faisait payer le patronat tel qu'il devrait payer, en particulier le grand patronat, je peux dire qu'il n'y aurait pas de déficit dans les caisses de retraite. Le système a été mis au point après la guerre. Pays ruiné, tout à reconstruire, etc. Bon. Certes, il n'y avait aucun chômage. Il faudrait peut-être en tenir compte de ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du déficit de la sécurité sociale, on oublie de dire qu'il y a 3 millions de personnes qui ne cotisent pas, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de travail. Et que ce chômage, il est organisé par le patronat pour faire pression sur les salaires, précisément. Donc il n'y avait pas de chômage. Le ratio entre actifs et inactifs était beaucoup plus favorable après la guerre qu'aujourd'hui, certes, mais il y avait beaucoup d'enfants après la guerre. Il y avait le fameux baby-boom. Or, ce sont des inactifs, les enfants. Par définition, ils ne sont pas dans la vie active. Il a bien fallu que l'ensemble de la société prenne ça en charge. Alors moi, je dirais qu'il y avait une grosse différence entre après la guerre, les années 50, et aujourd'hui. C'est que le prélèvement, il était progressif à cette époque-là. Et il était considérable, aussi bien le prélèvement fiscal que le prélèvement social sur les cotisations. Il était même presque confiscatoire. Il y avait des taux à 80% pour l'impôt. Aujourd'hui, ah non, c'est confiscatoire. Vous imaginez, sauver les riches, hein, on va pas faire payer 60 ou 80% d'impôt sur les revenus des gens extrêmement riches. Bon. Alors qu'à l'époque, oui, il suffit de regarder la structure de l'impôt à cette époque-là. Il y avait une redistribution par l'impôt et les prestations sociales. Aujourd'hui, de moins en moins. En fin de compte, aujourd'hui, ils sont en train d'assassiner un système qu'ils ont laissé mourir, faute de ressources, et encore laissé mourir. Il n'y a que 7 milliards de trous, le fameux trou de la sécu, là, dont on nous rebat les oreilles. 7 milliards sur un budget qui est un budget de 750 milliards. Donc ça veut dire 1% de déficit. Ah mais vous rendez compte, c'est des sous. Alors on impressionne le crétin qui gagne 2000 balles par mois. On lui dit, vous rendez compte, on va pas tenir à ce rythme-là, on pourra plus payer les retraites. Alors les gens, je pense, y croient de moins en moins. Il y a un éveil, hein. Les gens se disent, bordel, on va diminuer les retraites dans un pays immensément riche comme la France, où la productivité du travail a augmenté de 200% depuis 60 ans. Non mais attends, on va où? Moi, je fais quand même remarquer une chose aux gens. Dans les années 50, et j'en suis le témoignage vivant, un couple d'ouvriers, mon père était ouvrier, ma mère était à la maison. Mon père arrivait à faire vivre sa famille avec trois enfants en 1950 ou en 1960. Et aujourd'hui, est-ce qu'un couple d'ouvriers peut faire vivre avec un seul salaire? Non. Donc on a perdu alors. Les revenus ont diminué de façon considérable.
Assez, assez de ce gouvernement qui rançonne les smicards pour aider les richards.
Il était un petit point d'indice, il était un petit point d'indice, qui n'avait jamais augmenté, qui n'avait jamais augmenté. Ohé, 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 salariés, ne nous laissons pas pénaliser. Ohé, ohé, salariés, on veut une retraite bien méritée.
En fouillant dans mes souvenirs de collégien, j'étais en cinquième, mais un jour, la prof d'histoire géo nous a sorti une pyramide des âges et nous avait expliqué, vous voyez les enfants, une pyramide des âges, il y aura trop de vieux, pas assez de jeunes, et donc vous n'aurez pas de retraite. Et puis après, les médias dominants, Poujadas, compagnie, France Intox, ont repris le relais. C'est d'autant mieux rentré dans la tête des gens qu'on l'a appris à l'école, ce truc-là.
Et moi, j'en veux énormément à la masse de mes collègues d'histoire, géographie, d'économie, etc., qui pendant des années ont diffusé délibérément un modèle, une façon de voir, une analyse, entre guillemets, tout à fait conforme au désir du capitalisme au pouvoir. Ça a désarmé les gens. Ça a fait rentrer dans la tête des gens, consciemment, inconsciemment, des modes de pensée, de comportement, qui sont des modes de comportement libéraux, capitalistes. Les gens, c'est une deuxième nature. Au bout d'un moment, tu intègres ces choses-là et tu dis rien d'autre n'est possible. Il n'existe aucun autre modèle. Tina, there is no alternative, comme disait Margaret Thatcher, c'est-à-dire que bon, vous n'êtes pas content, mais il n'y a rien d'autre. Dans l'esprit de la majorité des gens, il n'y a pas d'alternative au système actuel. C'est-à-dire que la société est obligée de fonctionner comme ça, c'est-à-dire avec une oligarchie au pouvoir soutenue par une moyenne bourgeoisie qui tient les commandes, etc., et qui assène aux gens, et avec des travailleurs aliénés qui ne savent pas qu'ils sont des prolétaires, qu'ils sont exploités et qu'ils contribuent à l'enrichissement considérable de la bourgeoisie. Il y a un article dans Le Monde diplomatique absolument fantastique, un article de Alain Accardo. Accardo est un professeur de sociologie à Bordeaux, disons que c'est un bourdieusien, quoi, c'est-à-dire un sociologue plutôt marxiste, etc. Et il écrit un article qui s'intitule « Vie et mort du petit bourgeois gentilhomme ». Et en sous-titre « Ce capitaliste qui sommeille en chacun de nous ». Et c'est un article qu'il faut lire, parce qu'il donne des armes d'analyse au combat politique d'aujourd'hui, et au combat syndical aussi d'ailleurs, qui est remarquable.
Voici donc l'introduction de cet article d'Alain Accardo. Comment combattre un ordre social qui a installé en nous-mêmes ses manières de voir le monde? Ce dilemme traverse l'œuvre du sociologue Alain Accardo, tout comme la figure qu'il incarne, celle du petit bourgeois gentilhomme, tiraillé entre ses aspirations déçues et sa révolte empêchée. La crise climatique et l'exigence d'une écologie anticapitaliste sonneront-elles le glas de ce type humain?
Alors c'est en même temps un article, désespérant, et un article qui donne de l'espoir. Je sais, ça peut paraître contradictoire, mais je m'explique. Enfin, c'est désespérant parce que il montre que depuis 60 ans, il s'est passé un processus profond d'acceptation du système par les gens. L'acceptation en masse et en profondeur du monde tel qu'il va. Hein, le modèle américain avec une démocratie bipartite, deux partis qui sont d'accord sur l'essentiel et qui se partagent le pouvoir, qui alternent au pouvoir avec un milieu politique qui est soumis aux intérêts de la très grande oligarchie et qui y croit en plus. Hein. Alors, bien sûr, Accardo veut bien croire que ce personnel politique est en partie sincère, c'est-à-dire croit à ce qu'il fait. Ce ne sont pas de simples mercenaires au service du grand capital. Enfin, ça revient au même.
La sincérité n'est pas forcément un gage de vertu ou de machin. Hein. Je pense qu'il y avait des nazis très sincères aussi dans leurs convictions. Hein.
Bien sûr. Mais ce que dit Accardo, c'est qu'il ne suffit pas de dire, bon, de traiter ces gens de laquais, de larbins du grand capital. Parce qu'en fait, ces gens ne gouvernent que parce que une bonne partie de la masse des gens, on le voit bien avec les élections, même si 60% des gens ne vont pas voter. 50-60% des gens ne vont pas voter. Il n'en reste pas moins que pour ceux qui restent votés. Il y a acceptation du système. Ils portent au pouvoir ces gens-là. Ils ont une légitimité qui est due à la majorité du corps électoral qui les porte au pouvoir. Donc il ne suffit pas de dire, pour rejeter le capitalisme, de dire « mort au grand capital », etc. et « pendons les laquais du grand capital ». Il faut faire changer la mentalité des gens. Il faut travailler sur les idées. Alors quelqu'un m'a dit, c'est de l'idéologie, mais c'est... Ben, je dis, travaillons sur l'idéologie. Moi, il m'a toujours semblé, je crois l'avoir dit d'ailleurs dans des émissions, que si vous changez les idées, vous changez le monde. Vous changez le monde, parce qu'en fait, c'est lorsqu'une idée s'empare des masses, en quelque sorte, elle devient une force irrésistible. Pour l'instant, la force irrésistible, c'est l'idée capitaliste. C'est pas l'idée socialiste.
Tous ensemble, grève, grève, dans le public comme dans le privé.
C'est pour ça qu'on est là.
De la retraite, on veut profiter.
C'est pour ça qu'on est là.
On veut pas crever au boulot.
C'est pour ça qu'on est là.
Finir aux minima sociaux.
C'est pour ça qu'on est là.
Dans le bol des arcaques incessantes.
C'est pour ça qu'on est là.
Des patrons du gouvernement.
C'est pour ça qu'on est là.
Pour cela, on a décidé.
C'est pour ça qu'on est là.
Les salaires, il faut augmenter.
C'est pour ça qu'on est là.
Les précaires titularisés.
C'est pour ça qu'on est là.
Les intérimaires embauchés.
C'est pour ça qu'on est là.
Patronat ne plus subventionné.
C'est pour ça qu'on est là.
Sur les profits, il faut puiser.
C'est pour ça qu'on est là.
Tous ensemble, tous ensemble.
Grève, grève.
Tous ensemble,
grève, grève.
Tous ensemble,
grève, grève.
L'article d'Accardo est très intéressant parce que, en fait, il s'attaque à ce que moi j'ai toujours considéré comme la partie décisive des combats sociaux et politiques, c'est-à-dire les classes moyennes. Le mot classe moyenne est assez vague pour s'appliquer à peu près à n'importe quoi, et que moi je parlerais plutôt de petite bourgeoisie. Alain Accardo, lui, il serait plus exact de parler de petite bourgeoisie que de classe moyenne, parce qu'après tout, classe moyenne, c'est assez vague. Ça englobe des gens qui sont pas tout à fait dans les mêmes rapports sociaux de production et d'échange. Toujours est-il que la petite bourgeoisie, elle est décisive. Aujourd'hui, Accardo dit que c'est elle qui impose ses modèles idéologiques, alors même qu'elle n'est que le rouage indispensable et les serviteurs de la grande bourgeoisie capitaliste, il n'en reste pas moins que c'est elle qui impose son modèle social, idéologique, etc., et son modèle idéologique. Alors, ça ne dérange pas le grand capital que d'être en quelque sorte détrôné dans son rôle de fabricant de l'idéologie, du discours, un truc comme ça, ou des symboles, par la petite bourgeoisie. Parce que la petite bourgeoisie est d'accord sur le système, donc il est d'accord avec le libéralisme capitaliste au pouvoir aujourd'hui. Donc il n'y a rien de subversif là-dedans. Mais c'est très intéressant parce qu'en fin de compte, à qui la petite bourgeoisie inculque-t-elle son idéologie, sa mentalité, ses modes de raisonnement, etc. Au prolétariat. Au prolétariat, c'est-à-dire que c'est la classe ouvrière elle-même est touchée. Le modèle social d'aujourd'hui dominant, c'est le modèle de la petite bourgeoisie. Je ne leur en veux pas, et Accardo non plus ne porte pas de jugement moral en disant « oui, c'est pas bien », etc. Il constate que le mode, le comportement social, les modèles, tous les symboles, la culture, est emprunté par les travailleurs à la petite bourgeoisie. Et ce qui est déterminant dans cette influence, c'est bien sûr les médias et la publicité. On présente aux travailleurs un modèle de bonheur qui est fondée sur l'acquisition de biens, l'enrichissement, la consommation de biens prestigieux, etc., ou plus ou moins prestigieux, etc. En réalité, hein, on impose un modèle de consommation aux gens, mais on le satisfait à moindre coût. Hein. La voiture, la maison, le pavillon, tous les objets acquis par ces travailleurs ne sont pas de la même qualité que ceux qui sont acquis par la bourgeoisie, et la petite et la moyenne bourgeoisie, à plus forte raison pour la grande bourgeoisie. On leur propose un modèle de consommation, mais à satisfaire moins cher quand même, bien sûr, dans les catégories. Mais c'est le même modèle. C'est le même modèle, en quelque sorte, on fait partager aux travailleurs, à la classe ouvrière, un modèle de bonheur qui est fondé sur la consommation et sur la satisfaction individuelle de plaisir, de loisirs, etc. Enfin, c'est très clair, on va regarder la publicité telle qu'elle fonctionne. Alors bien sûr, c'est un piège. On fait croire aux travailleurs qu'ils ont les mêmes possibilités de comportement que la petite bourgeoisie, mais c'est pas du tout la même chose. Regardez par exemple par rapport au divorce. Lorsqu'il y a divorce dans un milieu de petite bourgeoisie, on s'arrange, ça se passe relativement calmement. Dans un milieu ouvrier, dans un ménage ouvrier, le divorce est beaucoup plus dramatique. On y a droit, mais ça coûte plus cher. Et c'est beaucoup plus risqué et coûteux.
Quand on est pauvre, on divorce pas.
J'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Mais oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi.
Bien payé.
Non, mais peu importe. Je veux dire, à un moment donné, faut prendre sa vie en main, faut arrêter de se plaindre.
Il y a des droits, ils sont pour tout le monde, mais comme disait Coluche, tous les gens sont égaux. Il y en a qui sont un peu plus égaux que d'autres. Alors, ces études de sociologie, je trouve qu'Accardo, il est extrêmement pertinent dans sa façon dont il voit les choses. C'est désespérant parce que je pense que pour l'instant, dans l'esprit des gens, ils ont gagné. Mais en même temps, ça propose à la gauche... la vraie gauche. Hein. Alors il y a chez Accardo un jugement radical contre la gauche qui a failli. Il continue de rester un homme de gauche et même de la vraie gauche anticapitaliste, Accardo. Et ce qu'il propose, c'est si vous voulez vaincre un système, il faut également combattre dans l'esprit des gens la logique de ce système, c'est-à-dire qu'il vous faut gagner une bataille idéologique, une bataille symbolique, une bataille sur les modèles de société. Il faut proposer autre chose aux gens. Il faut se battre sur ce modèle-là et bien identifier ses ennemis. Et également dire à la classe ouvrière, ne vous trompez pas, vous n'êtes pas la petite bourgeoisie. Vous pouvez toujours essayer, vous débrouiller dans votre coin pour essayer d'atteindre les niveaux de consommation de la petite bourgeoisie, mais ce n'est pas fait pour vous. Il serait préférable d'envisager un destin collectif, commun, c'est-à-dire une autre société.
Camarade bourgeois, camarade fils à papa, la triomphe en bas de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche, ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu roules en Ferrari ou en Lamborghini, tu roules des épaules, tu te crois super drôle, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, je sais ton père est patron, faut pas en faire un complexe, le jour de la révolution, on lui coupera que la tête, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu passes ton temps au drugstore sur les Champs-Élysées, tu te crois très très fort, t'es jamais qu'un minet, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois. bourgeois, camarade, fils à papa. Rejoins les rangs de la pègre, tu prendras vraiment ton pied. Ne sois plus une petite bête, nous sommes tous des défoncés. Regarde-moi, ah, 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 regarde-moi, ah, 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 regarde-moi, ah, ah, ah.
Renaud, chanteur, poète, qui semblait tout à fait révolté, enfin, du moins du temps de son vivant, avant de retrouver André, prof d'histoire géo et lecteur du Monde diplomatique, journal mensuel où notre ami a trouvé cet article du sociologue Alain Accardo intitulé « Vie et mort du petit bourgeois gentilhomme ».
Faisait remarquer Accardo qu'aujourd'hui, les débats politiques qui étaient dominants il y a 50 ans paraissent aujourd'hui complètement irréalistes, irréels aux gens. À l'époque, il y a 50 ans, la gauche se demandait comment faire la révolution socialiste et la droite comment les en empêcher. Quand on dit ça aux jeunes d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ça sort de leur champ conceptuel. Donc vous voyez l'évolution qui s'est passée en 50 ans. Quel est le bilan de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981? Eh bien, c'est ce que dit Accardo. Hein. Il dit bah, la social-démocratie s'est arrangée pour changer entièrement, en quelque sorte, la grille de lecture, pour faire accepter par les prolétaires le capitalisme, en quelque sorte, hein, le libéralisme. Ça a été, en fait, le gros travail de la social-démocratie, ça a été de faire adhérer la majorité des gens au système capitaliste, et à son fonctionnement, et à ses règles.
Tout ça passe par un travail de sape sur le langage qui a drôlement bien fonctionné, hein, parce qu'aujourd'hui, paraît-il, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus que des employés du tertiaire, il n'y a plus de salariés, il y a des collaborateurs. Conclusion, bah, on fait tous partie de la middle class. Donc s'il n'y a plus de classe, il n'y a plus de lutte des classes.
Bien sûr, il n'y a plus de lutte des classes, il n'y a plus de... Tout ça, c'est des vieilles lunes marxistes, etc., idéologiques, qui aboutissent au pire, au totalitarisme stalinien, etc., etc. Ça a fonctionné. Ils ont gagné, en fait. Hein. C'est vrai que nous, ça nous fait, bien sûr, un peu ricaner. Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus que des opérateurs. À l'EDF, on ne disait pas il n'y a plus d'ouvriers, il y a des agents. Bon, dans les banques, il y a des collaborateurs. Bien sûr, ces gens-là se sont emparés du vocabulaire. Hein, quand tu t'imagines que pendant des décennies, on a parlé de partenaires sociaux. Quand tu regardes aujourd'hui les partenaires sociaux, libre négociation entre partenaires sociaux. Ils ont gagné, effectivement, ils ont mené une lutte de tous les instants, avec tous les moyens, et Accardo dit, il dit, il y a deux agents principaux de diffusion de l'idéologie capitaliste comme ça, ça a été l'école, l'université, et les grands médias. Aujourd'hui, à part une poignée de médias qui échappent à l'emprise idéologique de la bourgeoisie, tous les médias sont tenus par des gens qui y croient. Tu vois, il est moins méchant que moi, Accardo, il dit, bah, faut pas traiter tous les journalistes de vendus au service du capital. Il y a des gens qui y croient sincèrement à ce qu'ils disent. Ils répètent jusqu'à la nausée l'idéologie capitaliste libérale, mais c'est en toute bonne foi, ils y croient eux-mêmes. Il en est de même de certains cadres supérieurs, hauts fonctionnaires, etc., qui sont au service de cette politique-là et qui pensent sincèrement que c'est la meilleure. Que les services publics n'ont plus leur place, qu'il faut privatiser, qu'il faut rendre le marché entièrement maître de nos destinées. Et ils y croient, et ils y font croire. T'enfonces le clou en permanence, ça finit par rentrer en quelque sorte. Hein. Mon maître Mazori, qui est professeur d'histoire à Rouen lorsque j'étais étudiant, qui disait il est beaucoup plus difficile de mettre fin à une erreur historique que de la diffuser. Vous diffusez une erreur historique, il suffit de la répéter assez longtemps, ça devient la vérité. C'est une contre-vérité, mais il vous faut ensuite après beaucoup de travail pour la contredire. Alors c'est un travail très long.
Les vieux dans la misère, les jeunes dans la galère, de cette société-là,
on n'en veut pas!
En fait, la prise de conscience des gens, c'est souvent la réalité qui l'a fait naître à la prise de conscience. Plus que la conversation, plus que la persuasion. Quand les gens ont de la merde jusqu'au menton et qu'ils sentent monter le niveau de la merde, ça va les submerger. Et là, ils commencent à faire marcher leur tête un petit peu. Et il est à craindre que cette réforme des retraites, hein, au pire, si elle est mise en place par ces salopards-là, il faudra attendre quelques années et dès qu'elle va se manifester ses premières nuisances, assez vite, hein. Là, les gens vont se dire, mais purée, dans quel guépier on s'est fourré. La riposte sociale risque d'être beaucoup plus sévère.
Salariés, la colère gronde à la vue du projet Macron. Sa réforme fait l'effet d'une bombe visant toutes les générations. Retraités,
oui, oui, oui,
maltraités,
non, non, non,
maintenons la répartition. Retraités,
oui, oui, oui,
maltraités,
non, non, non,
tous ensemble sauvons nos pensions.
Rien n'est irréversible. Une loi qui est faite peut être défaite. Quelque chose qui a été supprimé peut être rétabli. Alors bien sûr, les socialistes au pouvoir régulièrement depuis 30 ans nous ont habitués à encaisser les coups de la droite sans jamais revenir. Ils ont toujours avalisé en quelque sorte l'évolution qui était imprimée par la droite parce qu'ils étaient d'accord. La droite a fait ça, on continue. Hein. La signature de l'État, etc., etc. Mais on n'est pas obligé de faire comme les socialistes, hein, c'est-à-dire de baisser son froc en permanence et puis de rentrer à reculons dans le bureau du patronat. On peut aussi revoir la copie, refaire une vraie réforme de la protection sociale, l'actualiser avec la société d'aujourd'hui, bien sûr, les revenus d'aujourd'hui, dans le même esprit que celui de 1945, parce que c'est ça qui est important, esprit de justice sociale et de répartition. Parce qu'aujourd'hui, ils nous parlent de justice sociale pour supprimer les droits qui ont été acquis par les travailleurs. Ça fait mal aux tétés quand même. Hein. Non, moi je parle de véritable justice sociale. C'est-à-dire les gens qui ont beaucoup de pognon, ils cotisent plus, beaucoup plus que les gens qui ont peu de pognon. Tout le monde cotise, mais en fonction de ses revenus. Hein, parce que vous retirez 100 euros à quelqu'un qui est au SMIG, ça lui fait mal aux tétés. Vous retirez 100 euros à un riche, donc il faut qu'il paye beaucoup plus que 100 euros le riche. Il ne faut pas faire des trucs proportionnels, il faut faire des trucs progressifs. Plus vous êtes riche, plus la proportion de ce que vous versez est importante. Progressif. Le principe en a été adopté, je crois que c'était en 1914, par une chambre radicale et socialiste. Bon, il s'agissait d'une loi fondamentale, d'une loi fiscale. Les revenus des personnes physiques étaient fondés sur un système progressif, c'est-à-dire une échelle progressive. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé, on le sait, hein, depuis Sarko, continué par les autres, hein, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé les tranches les plus élevées, considérant que c'était confiscatoire. Souvenez-vous de la misère dans laquelle était plongé Johnny Hallyday, qui a été obligé de se réfugier dans l'île de Saint-Martin, etc., pour échapper à la rapacité du fisc français, ou Aznavour se réfugiant en Suisse pour échapper au fisc. Donc on a supprimé les tranches les plus élevées, qui étaient des tranches à plus de 70%. Bah oui, évidemment, quand vous gagnez des milliards, bah vous payez plus, hein. Bref. Donc on peut revenir à un système, on peut aussi donner du travail à un maximum de gens qui cotisent, et on peut contraindre tous les patrons à payer, on peut modifier les contrats de travail de façon à ce que tous les contrats de travail comportent un système de charges sociales à payer par les travailleurs et les patrons. Hein, on peut revenir à un système, et là vous verrez, il n'y a pas de trou de la sécu. C'est de la connerie, il n'y a pas de trou de la sécu. Je mets également en garde les auditeurs contre le système des fonds de pension, extrêmement dangereux. C'est ce que veut nous faire adopter Macron. Hein. Il s'est arrangé avec le directeur d'un fonds de pension américain, BlackRock, là, un salopard de financier. Vous pensez bien que des fonds de pension comme ça, qui ont des actionnaires, il faut qu'ils les engraissent, les actionnaires. Il y a peut-être moins de frais de fonctionnement qu'à la Sécu, mais il y a beaucoup plus de pattes à graisser qu'à la Sécu, évidemment, à BlackRock. Souvenez-vous qu'il y a eu des grands fonds de pension américains comme ça qui traitaient des centaines de milliers de travailleurs américains qui se sont effondrés parce qu'ils ont fait des mauvais placements. Songez aussi qu'il y a régulièrement des crises financières énormes dans le système capitaliste d'aujourd'hui, plus énormes que jamais en volume, qu'aucun organisme financier international n'est capable de couvrir les effondrements financiers qui peuvent survenir. Dans ces cas-là, vous, si vous avez vos fonds de pension, ben vous serez réduit à la misère, vous allez perdre votre retraite, entièrement perdre votre retraite. Capital, intérêt, tout, vous ne serez pas payé. Ce sera bien fait pour votre gueule, parce qu'il faut garder un système de répartition. Songez que dans un système par répartition, l'argent que touche un retraité, il est versé dans le même temps par quelqu'un qui verse sa cotisation à la sécurité sociale, patron ou ouvrier. C'est dans le même argent, qui a la même valeur en quelque sorte. Là, il n'y a pas d'histoire d'inflation, ni de crise, ou de trucs comme ça. L'argent qui est versé dans la caisse est immédiatement reversé aux ayants droit. Le système du fonds de pension, c'est différent. Vous versez, vous constituez une pension, en fait, hein, c'est un placement, auprès d'une société qui va gérer votre capital, votre pognon, pendant tout le temps où vous versez, et qui va vous reverser votre pension une fois que vous arrêtez de travailler. Encore faut-il que ce fonds de pension soit encore existant et ne soit pas en déficit complet ou même en faillite 20 ans ou 30 ans après. Qu'est-ce qui vous garantit que ces fonds de pension, ces énormes fonds de pension, ne vont pas s'effondrer? C'est ce qui est en train de se passer pour certains fonds de pension américains. Ils sont en train de s'effondrer. Et là, les travailleurs, qui sont sur ces fonds de pension, vont se retrouver sans pension. Voilà, c'est le système capitaliste, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mais il ne faut pas venir pleurer ensuite après. On vous le dit que c'est un danger mortel. Ne vous laissez pas abuser par le discours officiel. C'est pas BFM TV, CNews et ces gens-là qui vont vous donner une information économique ou sociale véritable. Ils sont pas là pour ça. Ils appartiennent aux mêmes gens qui possèdent les fonds de pension. C'est les mêmes. Ils couchent ensemble. Ils ont des enfants ensemble. Les finances, c'est les finances. Vous avez l'information qui est fabriquée par les gens qui profitent de votre naïveté.
Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort.
Allez, allez, les gars, on ne baissera pas les bras. Si on ne réagit pas, on l'aura dans le baba. Le gouvernement voudrait nous voir retravailler en étant moins payés. C'est les travaux forcés.
Il y a aussi un truc chez les gens, cette difficulté des gens à imaginer que autre chose puisse être possible. Mais alors, imaginer un truc nouveau, se lancer dans l'inconnu, ça peut être finalement beaucoup plus terrifiant.
Il y a la crainte de l'inconnu, ça pourrait être pire. Pour l'instant, j'arrive encore à survivre, il y a des difficultés, mais on s'en sort plus ou moins. Pourquoi se lancer dans l'aventure qui pourrait être très risquée? On nous dit beaucoup de mal de l'utopie, des systèmes de... On ne peut pas changer. La société ne peut fonctionner que comme ça. Mais je pense que, plus que la crainte, la résignation est fondée sur... la croyance mordicus que la société ne peut fonctionner que comme elle fonctionne, qu'il n'existe pas d'autre système de fonctionnement d'une société. On n'en imagine pas parce qu'il n'y en a pas. Pas possible d'imaginer un autre système que ce système-là.
Quand on a essayé, ça s'est terminé en stalinerie et autres goulagages.
C'est ça, oui, ça, oh là là, chinois, soviétique, oh là là, affreux, affreux, rien. On continue de faire peur aux gens, de brandir l'épouvantail de Chavez au Venezuela, de Castro a beaucoup servi aussi en disant, vous vous rendez compte, les dictateurs, etc., bah, pour en faire des repoussoirs en toute ignorance de l'histoire, hein, parce qu'il y a d'autres choses à dire sur ces régimes-là, sans en faire l'apologie pour autant. Hein. Mais ça n'a pas d'importance, l'histoire, de toute façon. Il s'agit simplement que les gens gardent une impression, c'est-à-dire socialisme, totalitarisme, caca-boudin, etc. Bon. Et ça suffit, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de réflexion. La réflexion est abolie aussi, il n'y a plus de référence. Même la référence à notre propre histoire, parce qu'après tout, nous avons une histoire de gauche socialiste, communiste, de lutte sociale, etc. Même cette histoire-là, elle est évacuée, totalement évacuée. Regardez comment elle réapparaît très timidement et de façon assez déformée dans les émissions d'histoire de la télévision, un truc comme ça, par petites bribes. De toute façon, l'essentiel, c'est que maintenant, les gens n'ont plus de mémoire. Et on a organisé l'amnésie. Hein, en même temps qu'on leur inculquait l'inéluctabilité du système capitaliste, on a organisé l'amnésie de tout ce qui pouvait faire référence à notre propre histoire, évidemment. Quand on dit sécurité sociale, l'après-guerre... Les gens ont oublié ça, puis l'enseignement de l'histoire est tellement débile, hein, je peux en témoigner, j'étais le seul prof à enseigner la sécurité sociale, réellement dans le détail, tellement importante de notre société, elle n'était pas réellement présente dans les manuels et dans les programmes. Quelques mots.
Tu penses bien, il aurait fallu rendre hommage à Ambroise Croizat et à Marcel Paul, qui étaient d'horribles communistes. On va quand même pas rappeler ce qu'on doit aux communistes, quand même.
Et pourtant, c'est eux qui ont fait les sujets sociaux, non sans mal d'ailleurs, hein, parce que même à l'époque, il y avait des opposants. Hein. Alors le patronat était plus discret.
Alors, c'est très marrant parce qu'on réinvoque la mémoire du CNR, le Conseil National de la Résistance, tout ça qui est brandi. Même Édouard Philippe l'invoque, c'est dire si ces gens ne manquent pas de cynisme. Mais finalement, il y a pas mal de mythologie autour de ce truc-là, parce que Ambroise Croizat et Marcel Paul créent ces dispositions sociales seuls contre tous. Même le PS de l'époque, la SFIO, s'oppose à ce truc-là. Donc le CNR, le Conseil National de la Résistance, hein, tout le monde, mano et la mano, est aujourd'hui mythifié. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Ambroise Croizat, seul contre tous, a profité d'une fenêtre de tir de quelques mois pour créer la sécurité sociale. Et il a fait ça, y compris contre les socialos de l'époque.
À l'époque, la victoire des soviétiques pendant la guerre et la progression de tous les partis communistes dans l'Europe entière, hein, y compris en Belgique, en Suisse, il y a des partis communistes qui sont en pleine progression, en Italie, etc. Certains participent au gouvernement en Italie, en Belgique, en Hollande et en France, bien sûr. Ce qui fait qu'il y a une concurrence et il y a un contre-modèle, c'est-à-dire que la sécurité sociale en France s'établit, y compris avec l'acceptation même paresseuse des centristes et de la droite, parce que c'est ça ou le bolchevisme. Parce que quand même, malgré tout, le système de protection sociale en France ne met pas en cause le capitalisme. Jusqu'où ils peuvent aller le plus loin, en quelque sorte. Hein, il y a deux grands partis en France à cette époque-là. Il y a le MRP, qui est la droite, mais qui se présente comme un centre chrétien, etc. Mais c'est la droite. Le Canard Enchaîné appelait ça le mouvement à récupérer les pétainistes. C'est-à-dire qu'il y a de tout hein, dans le MRP. Il y a aussi des chrétiens de gauche sincères. Mais enfin, c'est un centrisme modéré, etc., qui récupère, parce qu'il faut bien que les gens de droite votent quelque part. Après la guerre, sinon il n'y a que les communistes et les socialistes. C'est délicat. Donc, ce mouvement social, le MRP, bien sûr, il freine un certain nombre de mais il va accorder la SFIO, c'est pareil. Certains sont réticents au système qui est proposé par les militants communistes et la CGT, mais ils vont accepter quand même, parce que sinon c'est le communisme. Où on accepte de véritables réformes, parce qu'il y a une poussée. Le Parti communiste a 27% des voix, le Parti socialiste a 23% des voix, et encore reste-t-il des gens revendicatifs chez les gaullistes et les MRP. Il y a nettement un mouvement d'opinion qui est un mouvement d'opinion à gauche. Or, la bourgeoisie, le patronat, le grand patronat, la grande finance a été dénoncée pendant la guerre comme étant fauteur de guerre, fauteur de défaite, collaborateur. Ces gens, comme on disait, ils rasent les murs, c'est-à-dire qu'ils se font relativement discrets. C'est pas comme aujourd'hui où le patronat plastronne en disant non, on n'acceptera pas des choses comme ça de M. Martinez, etc., ou de la CGT. Non, à l'époque, c'est profil bas. Profil bas, il y a des patrons en prison à l'époque, parce qu'ils ont collaboré. Donc, bon. Ce qui fait que la sécurité sociale, tu as raison de dire qu'il utilise une fenêtre du rapport de force idéologique et politique. Là, c'est possible. Et là, la CGT et les communistes vont placer tout ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont dans leur valise comme programme. Pas seulement la sécurité sociale, assurance maladie, assurance et sécurité retraite, etc. Mais aussi la protection du travail, médecine du travail, inspecteur du travail. Bien sûr, il y avait déjà des choses au 36, hein, les comités d'entreprise, des trucs comme ça. Mais ça a été complété, considérablement complété par les réformes de 1945. C'est le plus loin que pouvait aller un système capitaliste sans mettre en cause fondamentalement le capitalisme, bien sûr. Et le capitalisme a bien survécu quand même, parce que c'est les mêmes fortunes qui ont traversé l'avant-guerre, la guerre, la 4ème République, et qui sont maintenant encore plus que jamais au pouvoir aujourd'hui. Les fortunes n'ont pas disparu, elles sont transformées, elles ont changé un peu de main, il y a eu quelques modifications, mais globalement le noyau de l'oligarchie restait le même. Les mêmes familles, il suffit de regarder les noms. Hein, l'onomastique nous en apprend beaucoup sur le capitalisme, hein, en quelque sorte. Il suffit de regarder les noms des sociétés, des gens qui possèdent les actions et des trucs comme ça. Donc ils ont survécu. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils ne peuvent pas survivre à un système de protection sociale, alors qu'ils sont immensément plus riches qu'en 1945. Beaucoup plus riche encore. Alors, il ne faut jamais croire ces gens-là. Jamais, jamais croire ces gens-là. Il faut systématiquement examiner de façon critique leur argumentation. Malheureusement, il y a une certaine paresse intellectuelle. Ça aussi, ça compte, la paresse intellectuelle. Ils ont du mal à gagner leur vie. Ou parfois, pour certains, à s'enrichir. Donc, de toute façon, c'est toujours des excuses pour dire « Ah oh ben non, je ne vais pas m'amuser à faire une analyse, à lire les textes, me renseigner. » Et c'est dommage parce que tu prends pour une mobilisation comme celle d'aujourd'hui, il faut lire les textes, il faut lire à quoi va aboutir la retraite à points. Il y a déjà eu des simulations qui ont été faites. Je pense qu'il y a encore un travail pédagogique à faire, un travail didactique, un travail pour mettre à la portée d'un maximum de gens les simulations qui sont faites. En disant, ben voilà, si vous avez tel âge, vous travaillez, là vous ne travaillez pas, vous avez des périodes d'inactivité. Bon, à 60 ans, vous avez travaillé pendant X années réelles, hein, parce que c'est ça qui va compter. Hein. Là, tout ce que tu n'as pas cotisé, c'est par des points, etc. Un type qui a fait ses études, un étudiant plutôt brillant ou plutôt satisfaisant, il sort à 26 ans diplômé, il a le CAPES. Et encore, il s'en tire bien 26 ans. Hein. La licence, c'est 3 ans, la préparation, donc 3 ans, 21, 23, 22, 23 ans, etc. Imagine, il a travaillé, évidemment, toute une partie de son truc, mais c'est des petits boulots sans cotisation, sans que ça compte. Hein. Bref, il arrive à 26 ans, il est diplômé. Eh bien, il devra travailler jusqu'à 66 ans pour avoir une retraite, et encore une retraite diminuée par rapport à la retraite actuelle. Le mode de calcul sera très différent. Il faut bien comprendre que tu as des gens qui sont infirmières, techniciens, instituteurs, professeurs des collèges, professeurs des lycées, de la même façon d'ailleurs. Ils vont arriver à 65 ans. D'abord, premièrement, à 60 ans, il n'est même pas question qu'ils prennent leur retraite. À 62 ans, on va dire, bah, à 62 ans, comment je pourrais prendre ma retraite? Ah oui, mais combien vous allez toucher? Là, ils vont se retrouver avec des retraites de misère. Alors bien sûr, si ils ont épousé un sac d'or et que leur femme ou eux-mêmes ont un petit patrimoine, etc., une maison dans le Lot-et-Garonne ou un appartement à La Rochelle ou un truc comme ça, tu complètes ton système de retraite. Hein. Mais quand même, malgré tout, ça va quand même pas être... Une maison, c'est une maison, mais un revenu, c'est autre chose. Ils risquent de se retrouver avec des revenus de l'ordre de 800, 900, 1000 euros même par mois. Alors que les prix ne seront pas les mêmes dans 20 ans qu'aujourd'hui. En fait, l'inflation calculée par l'INSEE, c'est du bidon. Tout le monde sait ça. En fait, les prix augmentent. Ou alors, si on a l'impression qu'ils diminuent, c'est parce que la qualité de ce qui est proposé est minable. C'est des produits chinois, coréens, ou n'importe. Mais à qualité égale, bien sûr que les prix augmentent. Regardez les automobiles, regardez l'immobilier ou n'importe, bien sûr, la vie augmente. En revanche, votre retraite, ça va pas être terrible. Alors bon...
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette émission insolente que vous pouvez réécouter sur notre site. Polémix et la voix off.com. Avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat... Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Why, oh why?
Radio G. www.radio-g.fr